La position du bateau, le site est correct. Mouillage, l'embarcation c'est fait. Pavillon, marque de manœuvre restreinte. L'échelle est en place.
Dans ce cordon ombilical, de l'air, de l'électricité, le scaphandrier travaille au fond de l'eau, dirigé et surveillé depuis la surface.
En immersion.
Il faut donc répéter les gestes encore et encore, assimiler les procédures de décompression. Le but, créer des automatismes.
Plonger dans l'actualité de la Lozère.
Allez, on vient d'arriver au salon du livre à Mende, à la Halle Saint-Jean ce samedi, et nous sommes avec Sylvie Gasset qui vient présenter un ouvrage. Bonjour.
Bonjour.
Alors, expliquez-nous l'ouvrage Arthur et les petits héros.
Alors, Arthur et les petits héros, c'est un conte initiatique que j'ai écrit pendant la période du confinement pour mes petits-enfants à l'origine. C'est l'histoire d'un animal étrange qui va prendre de multiples apparences et qui va amuser ces deux petits héros qui sont mes petits-enfants, donc Liam et Aloé. Et tout en faisant ces farces, ces facéties, il va leur transmettre des valeurs qui sont essentielles, comme le respect des gens, des autres, l'environnement, la famille, etc. Donc derrière Arthur, c'est mamie, finalement.
C'est votre premier ouvrage ou vous en avez écrit d'autres ?
Alors, c'est mon premier ouvrage. En fait, il se trouve que j'ai dû interrompre mon activité professionnelle et je me suis retrouvée à la maison en période de confinement. Et tout d'un coup, ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie d'écrire à mes petits-enfants. Et là, ça a été une thérapie, ça a été un plaisir immense. Je me suis vraiment régalée.
Et ça n'a pas été trop compliqué de changer, de se dire « je vais partir dans ce monde de la littérature »
J'ai pas choisi au départ de partir. C'était vraiment au départ destiné à mes petits-enfants. C'est à la fin, quand finalement l'histoire a été terminée, qu'on s'est posé la question, est-ce qu'on le propose à l'édition ? Et puis ça a été accepté. Donc voilà, c'est parti de là. Mais, donc je découvre ce monde. C'est mon premier salon. Je suis toute nouvelle en fait, dans le domaine. Alors j'ai pas beaucoup d'expérience.
Un mot sur les éditions percées ?
Alors les éditions percées, en fait, ce sont des éditeurs qui publient à compte partagé. Ce qui veut dire que vous avez une participation au départ. Donc c'est un choix. Hein. Moi, j'avais plus d'activité professionnelle et finalement, c'était une période difficile avec pas de perspective, etc. Donc on s'est dit, ok, on y va. Comme ça va me changer les idées. Je vais me tourner vers un autre monde, un autre domaine. Mais et eux s'occupent après de la communication. Alors c'est distribué par Hachette. Mais alors, eux contactent plusieurs magazines spécialisés, etc., et la presse, etc., et s'occupent de tout ce qui est communication. Voilà.
Ça s'adresse à quel âge ?
Alors, 6-9 ans. Bon, c'est un livre intergénérationnel. Il y a beaucoup de blagues, beaucoup de jeux de mots. Donc, les adultes s'en amusent en général. Mais à partir de 6 ans, mais peut-être avec l'aide des papas et des mamans, ou des mamies et des papis. Et puis après, de manière autonome, vers 8 ans. Voilà.
Donc vous ne regrettez pas d'avoir passé le cap et d'être...
Pas du tout. Je savoure, parce que je découvre et je savoure. Ça me plaît beaucoup.
Quand on écrit un livre comme ça, qu'on l'édite, on pense déjà au prochain livre. Comment ça se passe, ce processus de réflexion, d'écriture ?
Eh bien, j'ai écrit ce livre, j'ai eu de l'imagination parce que j'ai imaginé mes petits-enfants, parce que j'ai imaginé des situations drôles et comiques. Je ne savais pas que j'avais de l'imagination, donc je ne sais pas si c'est l'amour de mes petits-enfants qui m'a donné cette imagination. Je ne sais pas si je serais capable d'en avoir pour faire un autre livre, mais en tout cas, si, j'espère, parce que c'est vraiment très agréable.
Pourquoi se transposer en un Arthur ?
Pour plaire aux enfants, c'est vrai que il est comique, Arthur. Arthur, il prend différentes apparences. un poisson chat, un poisson écureuil. Et il a toujours, il adore les mots, il adore les expressions, les vieilles et les nouvelles. Alors il parle de jeunes ou il parle vieux. Enfin voilà, donc je me suis servie d'Arthur parce que j'habite au bord de l'Hérault, parce que voilà, il y a des souvenirs de pêche aussi. Arthur, il fait des farces aux pêcheurs aussi pour pas qu'ils prennent trop de poissons. Enfin, et ça m'est venu tout naturellement, le poisson Arthur.
L'histoire, c'est quoi ?
L'histoire, en fait, c'est deux petits cousins, en fait, qui, pendant le confinement, se promènent avec leur maman tous les jours, hein, pendant l'heure autorisée, en fait. Et un jour, ils vont au bord de l'Hérault, ils jettent des cailloux dans l'eau, et là apparaît un poisson étrange qui leur parle. Mais seuls les enfants peuvent l'entendre. Alors, les mamans ne le voient pas et ne l'entendent pas. Donc, il va se construire une amitié avec cet étrange animal qui va les suivre, même quand ils ne sont pas au bord de l'Hérault, en fait, sous l'apparence d'un oiseau, etc. Et qui va les accompagner dans leurs difficultés, par exemple, sous forme de jeu toujours, et de farce. Voilà.
On peut le retrouver où, du coup ?
Alors, il est disponible chez tous les libraires sur commande, je pense. Il est à la FNAC, il est sur les plateformes Internet aussi, et puis auprès des éditions Percé directement. Vous allez sur les éditions Percé, Arthur et les petits héros, vous allez le trouver.
On va vous retrouver sur d'autres salons, donc, j'imagine.
Je vais essayer, oui. Il faut que je préfasse la liste là et que je vais m'inscrire à quelques-uns.
C'est pas la liste du Père Noël, c'est la liste des salons.
C'est ça, tout à fait.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Allez, on va juste passer au stand d'à côté. Bonjour.
Bonjour.
Alors, c'est une première pour vous aussi, l'interview ?
C'est une première pour moi aussi. Je vais essayer de ne pas répéter de la même façon que moi aussi. Oui, en fait, c'est mon tout premier salon. À savoir, j'ai démarré l'écriture en 2013. Ce n'est pas ma vocation première, puisque je travaille en grande surface. Mais voilà, ça s'est révélé comme une passion. Et ça a suivi son cours jusqu'au temps où j'ai décidé de me faire éditer. Pour un premier, et le second est arrivé très vite, en fait. Voilà.
Daniel Bru, vous êtes d'où ?
Alors, je suis de l'Aveyron, je suis né en Aveyron, et j'habite Valady, non très loin de Rodez, entre Rodez et de Cazeville.
Alors, deux ouvrages vous nous proposez ici, parlez-nous de ces deux ouvrages.
Alors, le premier ouvrage, en fait, c'est l'histoire d'une enseignante, en fait, débutante, une institutrice, qui est originaire de Pau, qui a sa famille sur Pau, qui habite sur Toulouse, et qui un jour va recevoir une lettre du rectorat comme quoi elle est orientée vers Lyon. Et donc l'orientation géographique fait que ça va lui chambouler complètement sa vie. Et à savoir, en allant même sur Lyon, elle a un accident de voiture matériel, certes, mais c'est un agriculteur qui la découvre, et donc elle va vivre dans cette ferme et découvrir toute cette vie autour bien sûr de son métier. Voilà.
Pourquoi parler de ce thème précisément ?
Déjà pour mettre en avant déjà les enseignants débutants, parce que passer de la place de l'élève à maître, je pense que c'est pas si évident que ça. Parce que si j'avais pu aussi, j'aurais aimé être enseignant, je l'avoue. Et donc voilà, j'ai démarré comme ça, disons. Voilà, c'est une fiction, évidemment, hein, c'est pas un rapport sur une personne dite entre guillemets réelle. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui peut se passer. Et tout ce qui est mutation professionnelle, on sait que bon, c'est toute une adaptation, une réadaptation de vie qui fait que voilà. C'est pour ça que je voulais en parler.
Donc ça, c'est le premier ouvrage.
C'est le premier ouvrage et que j'ai appelé dans le fruit de la rencontre.
Donc un second ouvrage que vous venez proposer aussi aujourd'hui, voilà. Ici.
Alors le second ouvrage, en fait, l'écriture m'est arrivée très vite, en fait, dès le moment que j'ai fini mon premier ouvrage, en fait, et qu'il a été accepté, parce que c'est pas toujours évident de se faire accepter, évidemment.
On n'a pas parlé de la maison d'édition, d'ailleurs.
Alors, la maison d'édition, c'est la maison Polo, l'éditeur Polo Raman, en fait, qui est basée dans la Loire. Et la première fois que j'ai reçu le courrier, comme quoi il avait apprécié mon manuscrit, voilà, j'ai lu à deux fois et je me suis dit, chouette, et voilà. Et c'est venu comme ça. Et on fait vite, quand on écrit, on fait vite le saut d'un ouvrage un autre parce que bon voilà, c'est un plaisir, c'est le plaisir des mots, c'est le plaisir d'écrire une histoire, d'inventer une histoire, et avec tous les rebondissements qu'il peut y avoir autour. Et donc le second récit, en fait, c'est le second ouvrage, c'est trois récits différents. Le premier, c'est un constat un peu de ce qui s'est passé sans rentrer dans un côté, dans un film noir non plus, mais tout ce qui s'est passé entre le terrorisme, entre la Covid et tous les facteurs qu'on pourrait améliorer concernant l'hygiène. Voilà. Le second récit, c'est autour de trois âgés, en fait, qui sont dans un EHPAD et qui se retrouvent tous les jours sous le square. Et donc il lie une amitié, c'est pour ça que j'ai appelé ça « jeune amitié de vieux », et qui lie une amitié, qui se partage tous les souvenirs, ce qui m'a conduit à faire des recherches, bien sûr, par rapport au passé. Et le troisième ouvrage, c'est l'histoire d'un facteur, le facteur du village, mais ce n'est pas simplement en rapport avec son métier, mais plutôt les quatre femmes qu'il a en face de lui, c'est-à-dire sa maman, une collègue dont il tombe amoureux, une jeune fille aussi dont ils sont amoureux tous les deux, mais il découvre en fait que c'est sa demi-sœur, donc un amour impossible, et une amie très chère qui est l'épicière, conseillère et confidente à la fois. Voilà, et donc en découle l'histoire, bon, il y a des rebondissements bien sûr dans l'histoire, ce que je ne vais pas raconter là comme ça. Voilà.
Un premier ouvrage, on ne l'a pas dit, qui s'appelle Les fruits de la rencontre, celui-ci Tour d'horizon. Pourquoi Tour d'horizon ?
Alors, Tour d'horizon, pourquoi ? Parce qu'il y a trois récits, et les trois récits, le point commun qu'il y a par rapport à ces récits, il y a un récit à propos des plus âgés. Il y a un récit à propos de gens plus jeunes autour bien sûr de la vie du facteur. Et il y a un récit par rapport à la vie qu'on peut vivre aujourd'hui et par rapport à tout ce qui s'est passé auparavant. Voilà. Donc c'est pour ça, Tour d'horizon.
Très bien, merci beaucoup Daniel Bru.
Merci et merci à vous.
Merci bien.
Allez, on va passer au stand d'à côté parce que... C'est pas une toute nouvelle qui est à son deuxième livre, hein, à côté. Monsieur est à son deuxième livre, vous n'êtes pas à votre deuxième livre. Hein.
Non, j'en ai fait quelques-uns de plus.
Comment on fait encore pour trouver l'inspiration, Marie de Palais, pour encore trouver des histoires et inventer des histoires?
C'est un problème quand même, parce que je commence des fois et puis je file sur autre chose. Enfin, pour le moment, j'y suis arrivée, là. J'y arrive assez bien, mais je deviens vieille maintenant.
Oh, mais non. Vous venez présenter un nouvel ouvrage ?
Non, j'en ai pas de nouveau. Celui-là, c'est le dernier. Il est sorti au mois de mai. Il en sortira un autre à Pâques l'an prochain, avril, je crois, je ne sais pas exactement. Ce sera le Lettre d'un inconnu.
On peut en savoir un peu plus sur ce prochain ouvrage ?
Bon, si vous voulez, c'est des enfants qui montent au grenier, qui fouillent et qui trouvent des lettres. Alors, c'est des lettres qui sont adressées à une certaine Marie. Leur mère s'appelle Marie, pense que c'est elle. Et puis, ils voient la date, c'est 1915. En 1915, elle avait 5 ans, donc c'est pas elle. Et ils vont chercher jusqu'à ce qu'ils trouvent. C'est le thème du roman.
Et donc là, en mai, c'est Jeanne Courage que vous avez édité ?
Celui-là, oui, c'est Jeanne Courage. C'est l'histoire d'une fille qui a failli se faire violer. Par hasard, quelqu'un l'a entendu crier. Et alors, elle s'en va du village parce que, bien sûr, comme elle est pauvre et tout, on l'accuse d'avoir provoqué cet homme qui est un notable, donc elle est obligée de partir. Elle s'en va à Uzès, chez une tante, elle y va, puis elle remontera, et puis elle se mariera, mais il se passera des choses dans le village, et voilà.
Vous êtes toujours aux éditions de Bourré, hein ?
Ah oui. Attends, vous savez, maintenant, je ne vais pas les quitter. On s'entend bien. Et...
Vous êtes à combien d'ouvrages, maintenant ?
Je ne sais pas si c'est 24 ou 25.
Ça se tarit jamais.
Oh, ça se tarira bien un jour.
Rappelez-nous, comment vous êtes venu à l'écriture?
Par hasard. Par hasard, quand j'étais jeune, je voulais écrire, mais bon, puis ça m'a passé. Et puis mes enfants sont grandis, je me suis retrouvée seule avec mon mari, je ne savais pas trop que faire, et je me suis mise à écrire l'histoire de... Je voulais écrire l'histoire de mon grand-père. J'y suis pas arrivée parce que j'ai voulu lui inventer une toute autre vie. Et je ne l'ai jamais racontée, cette histoire. Mon grand-père, il ne savait ni lire ni écrire, puisqu'il avait été loué à 5 ans. Et puis, il a fait la guerre de 1870, parce que mes parents étaient très âgés. Et on lui a... Il a tiré un mauvais numéro. À l'époque, il tirait des numéros. Et il a appris à lire, à écrire, et l'a même raconté un peu de... Alors j'ai dit, tu devrais l'écrire. Et puis je ne l'ai pas fait.
Un jour, peut-être ?
Je ne sais pas. J'ai essayé, mais...
C'est compliqué du moment que ça touche à...
Non, ce n'est pas que ce soit compliqué, mais je ne sais pas. Ça ne me dit rien, disons.
Merci beaucoup, Marie de Palais.
Je vous en prie. Merci à vous.
Allez, on poursuit avec nos stands. Et là, je vais vous laisser vous présenter.
Alors, André Favède, du Gard. Voilà, j'écris surtout sur le monde des paysans. Voilà.
D'accord. Donc, expliquez-nous les ouvrages que vous venez présenter ici aujourd'hui.
Alors, dans un premier temps, celui-ci, qui est en provençal, dans la version de Mistral, avec la traduction en face, comme ça, c'est beaucoup plus simple, facile.
C'est de la poésie?
Ce n'est pas de la poésie, c'est de l'écrit, c'est de la prose.
C'est de la prose.
La prose en provençal, voilà, ouais.
Vous écrivez sur quoi?
Bon, ben là, celui-là, c'est un florilège d'un peu de tout, on va dire, voilà. Hein, voilà. Ce ne sont pas des poèmes.
Quel thème vous développez? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous écrivez?
C'est surtout le monde des paysans, voilà, puisque originaire d'une famille de paysans, je suis reconnaissant comme on devrait l'être davantage avec les paysans, hein, parce que quelque part nous sommes tous des paysans, ça c'est clair, même parfois depuis fort longtemps, mais c'est normal, voilà. Ensuite, celui-ci, alors ça c'est pour le 100e anniversaire de 1918, voilà, histoire de Maz en Provence, parce que c'est provençal tout ça, hein. Maz en Provence, le fils va à la guerre, voilà.
Pourquoi la petite boîte en fer?
Et parce qu'il y a un secret dans la boîte en fer.
On ne va pas le dévoiler?
Eh bien non. Ou alors c'est 10 euros.
Pourquoi être venu à l'écriture?
Ah ben alors là, et c'est venu très tard, je vous dirais. Je crois que le confinement y a été pour beaucoup. Le fait de rester enfermé, parce que plus ou moins, voilà. Et bien voilà, ça a sorti comme ça. Voilà.
Le titre du premier, parce que vous allez mieux le prononcer que moi.
Alors ça s'appelle « Quand le grand écrivait ». Ça veut dire « Quand le grand-père écrivait ». Enfin, ça veut dire ça.
Merci beaucoup. Ah oui, vous en avez un troisième.
Alors celui-ci, ça ressemble beaucoup à la Lozère, tout ça. Hein, puisque c'est une famille nombreuse de paysans lozériens, en 1900, même un peu avant. Et l'aîné qui a 5 ans, qui a 10 ans, et bien ma foi, on l'envoie travailler dehors parce qu'on ne le nourrit pas comme ça. Hein. C'était souvent le cas, voilà. Et le petit garçon, il va venir faire sa vie quelque part chez nous, un peu dans la plaine, en bas, faire berger, c'est sa vie. Voilà. Et là, il y a une suite qui arrive de ça.
Vous-même, vous étiez agriculteur?
Alors, j'étais agriculteur quand j'étais tout jeune. Après l'école, après le certificat d'études, où j'ai obtenu mon diplôme le plus important, ça a été celui-là. J'ai fait le paysan parce que mon frère était parti en Tunisie faire ses 2 ans de... Voilà. Voilà, je fais le paysan, avec les gros chevaux que vous voyez là, voilà, qui étaient, hein, ça va qu'ils marchaient tout seuls, hein, parce que moi j'étais derrière. Bon.
C'était notre époque, là il n'y a plus de chevaux maintenant.
Non, ben, c'est bien dommage quelque part, ouais. Parce que le fait de toujours voir toujours plus grand pour arriver à faire les choses tout seul, je ne sais pas si tout le monde y trouve son compte. Tandis que là c'était autre chose. Ah, ouais.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Allez, on va passer au stand d'à côté. Je vois que monsieur a personne en ce moment. Je pense qu'on va passer de tout à tout. À mon avis, on n'est pas sur les mêmes thèmes. Non. Donc, Jérémy Brun, la peur au ventre.
Voilà, donc bonjour, je suis Jérémy Brun, professeur des écoles. Donc, je présente La peur au ventre, qui est mon premier roman. C'est du fantastique horreur. Voilà.
D'accord. Qui parle de quoi? Racontez-nous un peu l'histoire.
En fait, donc déjà, l'intrigue se passe en Lozère. Et donc c'est l'histoire d'un garçon dont les parents vont s'entretuer. Du coup, il va devoir aller vivre chez son oncle, qui s'avère en gros être une sorte de sorcier, alors pas au sens Harry Potter, quoi, mais une sorte voilà, de sataniste, il va faire des messes noires, des choses comme ça. Et donc le garçon, il va lui arriver tout un tas de phénomènes inexpliqués, paranormaux, et on va suivre du coup sa vie de son enfance jusqu'à l'âge adulte, avec toutes les horreurs qu'il va pouvoir vivre, et on va essayer de découvrir le mystère qui entoure sa famille.
Alors pourquoi fantastique ? C'est un univers qui vous plaît ?
Oui, voilà, ça m'a toujours plu. Et puis, mon auteur préféré, c'est Howard Phillips Lovecraft, un Américain. Et du coup, voilà, je me suis un peu inspiré de ses écrits pour mon propre roman. Mais après, je suis également en train d'écrire des ouvrages de science-fiction. Donc voilà, après, l'imaginaire en général, ça me plaît. Voilà.
Comment on fait pour écrire un livre, partir sur une histoire ? C'est une histoire qui vient comme ça ? C'est une anecdote dans la vie qui vous fait penser à développer un thème ? Comment ça se passe ?
Celui-là, en fait, pour l'écrire, je voulais participer à un concours de nouvelles. Donc j'avais commencé à écrire cette histoire, mais finalement j'ai perdu... Enfin, mon disque dur a lâché, du coup j'ai dû réécrire une bonne partie. Et du coup, j'ai raté la date limite, enfin l'échéance pour le concours de nouvelles. Et du coup, c'est devenu un roman. Et après, celui-là, en fait, je suis parti de plein d'idées différentes. J'avais des scènes en tête, en fait. Et donc, mises ensemble, après, ça m'a permis d'écrire une intrigue globale. Et voilà, quoi, tout simplement.
C'était mal pour un bien, finalement.
Exactement, voilà.
Jérémy Brun, merci.
Merci à vous.
Allez, on va poursuivre dans nos pérégrinations sur la Halle Saint-Jean. On va aller chercher... Ah, monsieur Guy Salaï, stop, merci. Arrêtez-vous, je vous vois avec votre chariot de dessert qui vont certainement plaire aux gens ici. Beaucoup d'auteurs hein, présents.
Absolument, et puis en plus, cette année, comme on a... effectivement, c'est la reprise 2019, on avait connu les inondations, donc on avait été obligé d'évacuer les lieux. 2020, la crise. Donc cette année, il fallait absolument reprendre et recontacter des enfants avec le milieu du livre, de la lecture, des ateliers, le plaisir d'échanger. Donc on est ravis d'accueillir tout le monde et la journée se passe, somme toute, plutôt bien.
Combien il y a d'auteurs ? Il y a énormément de stands.
Alors là, on est à peu près sur 37-38 auteurs différents, mais à cela viennent s'ajouter les libraires, ateliers canopés, mais également les stands tenus par le comité départemental olympique et sportif de Lozère, puisqu'ils sont partenaires, les amis de la médiathèque, partenaires également. Donc effectivement, on est à peu près une cinquantaine de stands différents. Et les intervenants que l'on a eus sur les établissements scolaires.
Voilà, c'est ce que j'allais te demander. Là, on est au clou, on est à la fin de la semaine. Comment s'est passée la semaine ?
Alors, magnifiquement bien, puisque tous les auteurs ont pu intervenir dans les écoles, voire plusieurs fois également. Ça a permis quand même de brasser une certaine population, puisqu'on estime là être à un peu plus de 800 enfants qui ont bénéficié de ces ateliers. La diversité, on l'a eu par les auteurs ou les intervenants qui ont été retenus. Là aussi, toujours en lien avec le sport. Et on a eu également, lundi et mardi, des ateliers menés par des sportifs de haut niveau qui sont adhérents du comité départemental olympique et sportif de Lozère. Donc, ça a enchéri, ça a remonté encore le niveau. Voilà.
Plein de choix, c'est très éclectique aujourd'hui. Hein.
Absolument, un petit peu à l'image de tous les sports qu'on peut retrouver dans la nature lozérienne. Alors, on a essayé justement de faire une palette très large pour que tout le monde y trouve son compte, mais on a quand même gardé des pages terroirs. On a, par exemple, ici, un îlot de lozériens, hein, avec Xavier Boulot, Marie Palais, on a également Janine Amourou, etc. J'en oublie, bien sûr, mais on a voulu faire des îlots comme ça pour que les gens arrivent à se repérer facilement. Et aussi faire une part belle aux expositions et notamment après à quelques travaux qui ont été réalisés par les enfants dans les écoles. Mais on n'a pas assez de place pour tout afficher. Donc en février et en mars, à la médiathèque Lamartine, je bloque le troisième étage où on va exposer justement ces travaux-là par quinzaine, deux écoles à chaque fois. Et en plus, on aura une exposition sur le fair play qui viendra compléter cet ensemble-là. Voilà.
Mais merci beaucoup, Guy Salaï. On va continuer à faire le tour, voir les auteurs.
Bonne continuation. Merci à tous.
Merci. Allez, on va poursuivre pour aller voir donc les éditions de Les Pères. On les cherche et on va les trouver bientôt. C'est parti. Ah, Chantal Ferrier, elle est partout. Elle fait des spectacles, elle fait des livres, elle fait tout. Comment allez-vous, Chantal Ferrier ?
Je vais bien, je vous remercie.
Et on s'était vu au 48e de rue pour un spectacle. On se retrouve aujourd'hui pour un livre, Note Blanche.
Alors, il y a un conte pour enfants écologique contre la surconsommation à Noël. C'est de rigueur, on va dire. Puis un recueil de nouvelles qui s'intitule « Battement d'ailes », E2LES, 12 histoires de femmes qui prennent leur envol, et un roman d'amour expérimenté, « La caresse d'Hermès ». Voilà.
Et vous trouvez le temps de faire tout ça ?
Et justement, je cours après le temps, mais je le trouve.
Alors, Note Blanche, par exemple, je vois, c'est avec Catherine Lelandais, c'est au niveau des illustrations, c'est ça ?
C'est elle qui a illustré, elle a travaillé avec des techniques anciennes comme la tempura, elle a fait des photos aussi, enfin, les illustrations, franchement, sont plus belles que les textes. C'est moi qui écris le texte, mais je trouve que les illustrations sont magnifiques.
Les autres textes, vous en servez dans vos spectacles ou non, c'est quelque chose séparé ?
Non, c'est tout autre chose, oui.
Alors, par exemple, on voit La caresse d'Hermès, Battement d'ailes, ce livre parle de quoi ?
Alors, vous parlez de Battement d'ailes, 12 histoires de femmes, je peux vous lire ce qui est écrit derrière, comme ça. Elles s'appellent Marie, Lucie, Reine. Elles sont filles, mères, épouses, amantes. Toutes rêvent de laisser battre leur cœur et d'ouvrir grand leurs ailes. 12 nouvelles centrées sur des femmes. 12 vies qui fonctionnent en apparence à l'essence ordinaire, mais qui brûlent souvent d'un super carburant.
Comment on écrit ce livre-là ? C'est des gens que vous avez rencontrés, vous avez écrit sur elles, ou c'est des personnages fictifs inventés ?
Des gens essentiellement, des femmes essentiellement inventées, mais forcément, c'est inventé à partir de vrai. Donc, disons que c'est de la réalité déformée. Voilà.
Un mot sur La caresse d'Hermès ?
La caresse d'Hermès, c'est un roman d'amour suite à une annonce dans Le Chasseur français. Parce que Mythique n'existait pas à cette époque. Une annonce dans Le Chasseur français qui a permis à l'héroïne de rencontrer l'amour fou. Le mythe de l'amour fou, et comme c'était un mythe, elle ne l'a jamais rencontré, mais c'est sa plus belle histoire d'amour.
Ben, merci beaucoup, merci Chantal Ferrier, à bientôt pour une nouvelle.
Merci, bonne journée à vous.
Allez, on va poursuivre. Ça y est, on a trouvé les éditions de l'Épère. Les éditions de l'Épère qui sont au téléphone. On peut attendre. Sandy qui est là.
Oui, bonjour.
Bon, les éditions de l'Épère, vous êtes fidèles à ce salon du livre ?
Oui, le dernier, c'était 2018. C'était notre premier salon en 2018, donc on est contente de revenir cette année, effectivement. Ouais.
Avec des nouveaux ouvrages, vu que c'était il y a 2-3 ans, j'imagine, il n'y en a pas qu'un ?
Oui, depuis on a sorti 2 livres, donc avec Les cils comme rideaux de David Brunel, et puis un ouvrage collectif qu'on a fait en 2020. Et le prochain, Dilectae, qui est en cours de sortie... Voilà, c'est imminent.
Oui, ben on le voit là. Un mot sur ces 3 ouvrages, est-ce que tu peux nous les décrire chacun l'un après l'autre ?
Oui, le premier c'est un essai sur la photographie, donc en poésie, c'est une poésie en prose qui questionne notre regard sur les images, comment on voit une photo dans un musée, dans un livre, etc. C'est le recueil de trois livres, en fait, en un seul. Donc, il est assez épais et c'est avec un papier photo pour du texte. Donc, ça, on a privilégié le confort de lecture et la prise en main, ce qui est très important pour notre maison d'édition. Et l'autre ouvrage qui est sorti l'année dernière, c'est « Même les oiseaux chantent pendant le chaos », qui est, on a appelé ça une respiration collective. Hein, et on l'a initié pendant le premier confinement. La situation était compliquée, on n'avait pas de perspective de sortie de livre. On s'est tous retrouvés enfermés, les artistes n'avaient plus d'exposition, enfin c'était... on a tous connu la période. Et on a eu besoin de se retrouver, à travers les pages d'un livre. Et on a invité une cinquantaine d'artistes, photographes, écrivains, peintres, à avoir carte blanche sur une double page. Voilà, donc on a recueilli tout ça, toute cette matière, et on en a fait un livre, notre premier livre collectif.
Un mot peut-être sur les auteurs, donc c'est un collectif, qui sont ces auteurs ?
C'est des connaissances ou des personnes dont on suivait le travail mais qu'on ne connaissait pas, donc c'était aussi l'occasion de rencontres. Et c'est très divers, enfin pour citer quelques artistes, on a Sophie Thiers qui habite en Lozère. Après il me vient en tête Sophie Zénon qui est artiste photographe, qui travaille sur la mémoire, qui a un magnifique travail. On a Aurélia Frey qui est donc l'artiste du prochain livre. C'est compliqué d'en choisir quelques-uns, Michael Dupérin, L'ours à mama, enfin bon, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup.
Et donc un dernier livre qui va sortir, que vous présentez, mais qui n'est pas encore édité à un nombre suffisant, j'imagine. Dilactae, on dit le E ou pas?
Oui, on dit comme ça, Dilactae. Donc en fait, là vous avez sous les yeux un prototype du livre. On a eu un petit souci d'impression, enfin de façonnage du livre, donc c'est un décalé dans le temps. Mais ça va, enfin voilà, on est en train de chercher une solution pour qu'il puisse sortir bientôt. Et donc Aurélia Frey, elle connaît bien la Lozère, elle vient souvent à Grisac notamment. Et là, c'est un travail qu'elle a fait en résidence de création au musée Sachet, en Touraine, qui était la villa d'écriture pour Balzac, où il a écrit Le Lys dans la vallée. Donc l'artiste Aurélia Frey s'est inspirée de ce roman-là pour en réécrire une écriture photographique en fait, du roman. En suivant le personnage d'Henriette, donc le personnage principal avec l'amour impossible avec Félix. Donc voilà, c'est cette histoire-là de mettre en image l'âme d'un personnage, d'essayer de mettre en image aussi un amour impossible. Et donc dans ce livre, dont les images sont vraiment magnifiques. Bon, dans la radio, il n'y a pas l'image, donc il faudra venir nous voir pour voir le contenu, mais c'est vraiment... Il y a beaucoup de matière, Il y a beaucoup de nature morte, de clair-obscur. Il y a un travail sur la lumière qui est très important et très, très bien. Le travail aussi en argentique. Donc ça, il y a un grain d'image. Et la particularité, c'est qu'il y a un petit herbier à l'intérieur des pages qui était disposé à la main. C'est un façonnage à la main. Et en fait, ces photogrammes de fleurs, dans son idée, c'était que c'était les bouquets offerts par Félix à Henriette qu'elle a collectés et mis dans un herbier en souvenir de cet amour impossible. Et que l'artiste aurait retrouvé et refotographié, etc. Et qui vient donc parsemer les pages du livre de Dilactae.
Voilà, les éditions de l'Épère, maintenant, on vous connaît assez. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, on rappelle, hein, c'est toujours ce lien avec la photographie, avec l'art.
Oui, bah, c'est vrai que c'est la ligne sur l'image photographique. Après que l'ouvrage collectif, on s'est ouvert à d'autres médiums, en tout cas sur l'image. Et on a envie de creuser ça encore un peu plus. On a sorti aussi d'autres éditions limitées, cartes de collection, pour faire sortir le livre de lui-même en quelque sorte. On fait sortir les images du livre et on les réinterprète, on les fait vivre autrement. Hein. Notamment avec du papier calque, ce qu'on aime bien travailler.
On s'était vu au départ de cette aventure, c'est pas très ancien, hein. On en est où à l'heure actuelle?
Ben là, si tout va bien, en 2022, on va fêter nos 5 ans d'existence. Donc on sort à peu près un livre par an, donc on aimerait poursuivre sur cette ligne-là. On a plein d'idées, on a envie de créer une collection pour l'année prochaine aussi, de faire des livres un peu plus à la main, d'expérimenter d'autres techniques d'impression, de papier, de façonnage, de mettre la main à la pâte, quoi.
C'est tout ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup, Sandy.
Merci beaucoup.
Merci. Allez, on va poursuivre avec d'autres auteurs et pour voir. Bonjour. Allez. On y va. On va aller voir Canopée qui fait du bruit. C'est Canopée qui fait tomber des livres, qui fait du bruit. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça va, Nadia?
Ça va bien. Oui, merci. Oui, oui, tout va bien. Ça se passe bien, ce salon.
Beaucoup de livres présentés aujourd'hui à Canopée. Vous y êtes habitué à ce salon du livre, hein. Oui. Vous y êtes chaque année, enfin, quand il a lieu.
Oui, oui, on est habitué, on vient vendre nos ressources du réseau Canopée, donc les documents du réseau Canopée, puis des livres éducatifs.
Comment se porte Canopée?
Alors Canopée devient un opérateur de formation, mais a toujours son édition aussi, l'édition du réseau Canopée, qui est une édition plutôt pédagogique. Voilà.
Alors justement, il y a plein d'ouvrages de cette édition, qu'est-ce qu'on peut retrouver aujourd'hui?
Alors on retrouve parmi donc les collections, la collection toujours Pont des Arts, alors qui est une collection qui permet de découvrir une œuvre d'art à travers une fiction, avec un petit documentaire aussi à la fin de l'ouvrage. Donc ça, c'est une grande collection. On arrive maintenant avec une collection qui arrive à une soixantaine d'albums. Ce sont des beaux albums avec des belles illustrations. Voilà, et c'est un partenariat aussi avec l'Élan Vert. Voilà, c'est l'Élan Vert Canopée.
Il y a des thèmes qui sont ressortis cette année après une année compliquée ou pas forcément?
En effet, si. Alors nous, de notre côté, on a quand même pas mal de demandes sur des livres aussi. Alors pour diminuer les écrans, par exemple. Donc ça, c'est vrai qu'on a pu... Voilà, j'ai acheté des ouvrages là pour les parents qui veulent aussi avoir des idées pour comment contrôler les écrans chez leurs enfants, donc le smartphone, d'autres écrans qui ont été vraiment très présents pendant le confinement et qui continuent à l'être. Donc voilà, on a envie d'aider aussi un petit peu les parents et les enfants à sortir un peu, à faire d'autres activités, à lire, aussi. Et pas toujours être sur leur téléphone portable.
C'est l'occasion là, avec tout ce que vous proposez. Merci beaucoup, Nadia.
Merci.
C'est parfait, j'en ai pas eu jusqu'à présent, j'ai pas eu d'illustrateur. J'ai eu des gens qui écrivent.
C'est radio.
C'est 48 FM.
D'accord, je connais pas, mais.
Radio Lozérienne.
Allez.
Olivier Domas,
oui.
Qu'est-ce que vous venez présenter ici?
Je viens présenter mes ouvrages Les aventures du petit chaperon loup et les aventures de Robin Dubois-Renard. Voilà.
C'est plusieurs ouvrages, hein, c'est toute une série, c'est ça?
Alors oui, Le Petit Chaperon Loup, c'est 4 volumes, 4 aventures du Petit Chaperon Loup. Et j'ai aussi, bien sûr, que fait le Père Noël quand il ne distribue pas de cadeaux aux enfants. Avec ces ouvrages, on apprend, ce que fait le Père Noël, eh bien, en dehors de son mois de travail.
Alors, qu'est-ce qu'il fait?
Eh bien, alors, on va pouvoir voir, hein, avec vous.
Il va falloir le décrire, hein, parce qu'à la radio, on ne va pas trop voir.
Je sais, je vais essayer de décrire ça. Eh bien, au mois de janvier, le Père Noël, eh bien, il tire les rois. Hein. Ensuite, au mois de février, eh bien, il va faire du snowboard. En mars, c'est le mois du déguisement. Donc, il se déguise soit en pirate, soit en Spider-Man. Et ainsi de suite, en avril, c'est le poisson d'avril. Et j'aime beaucoup celle du mois de juin où le Père Noël va en Afrique et il va s'entraîner à driver. On va parler anglais un peu, hein, c'est pas grave. À driver son traîneau avec des girafes et des hippopotames. Voilà. Et puis au mois de décembre, eh bien, on sait tous ce que fait le Père Noël.
On le suppose, du moins.
Je crois, oui, on suppose.
Et c'est des ouvrages qui sont écrits avec... C'est Céline... L'Amour Crochet.
Tout à fait. Céline L'Amour Crochet est l'auteur de ces trois ouvrages. Je n'ai fait que les illustrer, moi. En revanche, ceux-là, la série du Petit Chaperon Loup et de Robin Dubois, j'ai fait les textes et les illustrations.
Il parle quoi, ces livres-là?
Alors, Le Petit Chaperon Loup, en général, ce sont les aventures du Petit Chaperon Loup, comme je l'ai dit tout à l'heure. Eh bien, le Petit Chaperon Loup est un petit loup qui a pris l'apparence du Petit Chaperon Rouge. Et à travers ses aventures, eh bien, il apprend un petit peu la vie. Il est un peu maladroit. Il apprend à se faire des amis, Il apprend à vivre en société, on va dire. Et en vivre sur la bagarre, eh ben, il se rend compte que rien ne se résout par la bagarre.
C'est une bonne morale.
En général, j'essaie, oui. J'essaie de faire passer le message.
Robin Dubois, il n'y en a qu'un ou il y en a plusieurs?
Il n'y en a qu'un, oui. Il n'y a qu'un ouvrage de Robin Dubois, oui.
Il vient d'arriver après Le Petit Chaperon.
Oui, c'est le dernier. C'est le dernier qui est sorti, oui, en effet.
On change de personnage, pourquoi?
Alors, on change de personnage... J'aurais pas de réponse. Il se trouve que là, c'est difficile. Bon, c'est vrai, on a la radio, on voit pas trop. Sur la série des petits chaperons loups, le loup est. Ça a été fait en traditionnel, c'est-à-dire vraiment avec de la peinture sur des toiles. Sur le Robin Dubois, on arrive sur du numérique. C'est que du numérique, pas la graphique. Et j'ai envie de changer de héros, tout simplement.
Ouais, on change de manière de travailler.
Oui, on s'adapte. Et on est toujours en recherche un petit peu, donc c'est vrai que là, sur celui-là, je me suis dit, je vais tester la palette graphique et c'est une approche complètement différente qui n'est plus du tout physique. Là, on a une autre approche.
C'est quoi être illustrateur en 2021?
Être illustrateur, c'est être polyvalent, je crois, parce que c'est très difficile de vivre que de ça. Donc à côté de ça, nous faisons des interventions en général quand on se retrouve sur les salons comme celui-ci. Nous faisons des interventions en amont dans les classes. Donc ça fait partie de notre métier, l'intervention, les cours. Moi, je donne des cours de dessin à mon domicile, à des adultes, à des enfants. Je crois qu'il faut être multitâche, quoi.
Un mot sur la maison d'édition ?
Alors, la maison d'édition, je travaille beaucoup avec Bill Bocquet. C'est une maison d'édition qui est dans... je ne sais plus quel département. Je sais que c'est le département des Châteaux de la Loire, près de Blois. Je ne sais plus le département. Désolé. C'est une maison d'édition moyenne. Ce n'est pas une grosse, ce n'est pas une petite. Voilà, et ça fait des années que je travaille avec elle. Ça se passe très bien.
On va continuer.
Voilà, j'espère. J'espère.
Ok, merci beaucoup, voilà. Olivier Domas.
Merci à vous.
Allez, je vais passer à côté, mais madame a des personnes qui viennent voir. Allez, entre deux personnes qui viennent voir, Xavier Broncard, bonjour.
Bonjour.
Alors dites-moi, vous venez présenter un livre qui s'appelle « Une petite girafe ». Vous êtes illustratrice.
Oui, c'est ça.
Voilà, un livre qui a été coécrit avec Isabelle, je vous laisse dire son nom.
Isabelle Vlodarzik, avec qui j'ai fait plusieurs ouvrages. Et donc là, c'est notre dernier livre, pas notre dernier projet, puisqu'on en a un autre en cours.
Une petite girafe.
Une petite girafe. Donc c'est l'histoire d'une petite girafe qui est différente, qui est toute petite, et qui découvre que ça a ses avantages d'être différente des autres. Donc c'est un livre qui est pour les tout petits, pour les 3-5 ans, et qui avait gagné un prix en 2020 dans la Somme. Donc c'est un gros prix et il a été édité par la Bibliothèque départementale de la Somme pour un an, pour l'année 2020. On a récupéré nos droits en fin d'année et il est ressorti aux éditions Cépage et donc réédité cette année.
Vous utilisez quelle technique pour le dessin ?
Donc c'est de la linogravure. Donc je grave sur du linoléum et j'encre et j'imprime.
Vous venez de me dire que ce n'était pas votre premier ouvrage avec cette auteur ?
Non, en effet, je crois que c'est le quatrième ouvrage qu'on a ensemble. Et on est en train de travailler sur un autre projet. J'ai un livre à paraître en fin d'année avec elle aussi. Voilà, c'est tout.
C'est pour les tout-petits aussi, toujours, ou c'est uniquement celui-ci ?
Non, pas forcément. On a la peinture du Chiqui chez Appa de Loup, qui est pour les plus grands, 7-8 ans. J'ai un autre livre aux éditions Oscar, qui est pour les plus grands aussi. Donc, ça dépend des projets.
Je discutais avec votre collègue à côté tout à l'heure, qui m'expliquait que de nos jours, en 2021, pour être illustrateur, illustratrice, il fallait être multitâche. Pour s'en sortir, donner des cours, intervenir dans les écoles, dessiner des ouvrages. C'est le cas pour vous aussi ?
Oui, en effet. on est obligé. En même temps, ça fait partie aussi du travail, les interventions. Enfin, moi, personnellement, j'aime énormément les interventions. Mais on est obligé de se diversifier, en effet, de multiplier les ressources pour pouvoir vivre correctement, parce qu'on n'est pas salarié, donc on a besoin d'avoir plusieurs cordes à notre arc.
Comment se passe le processus de création avec une ou un auteur ? Vous travaillez ensemble en même temps, ou on vous donne le texte, vous mettez les dessins après ? Ça se passe comment ?
Alors, pour la petite girafe, comme on faisait ce concours, on a travaillé en même temps, en fait. Elle m'a parlé de son idée et moi, j'ai construit mes dessins sur son idée et elle écrivait en même temps. Mais d'une manière générale, c'est plutôt l'auteur qui fournit un texte et l'illustrateur se calque dessus. Après, l'auteur peut modifier un peu son texte, mais c'est vrai que d'une manière générale, c'est l'illustrateur qui se cale sur le texte, me concernant. Mais la petite girafe, c'était particulier, comme c'était un concours.
Vous travaillez toujours avec un ou une auteur ou vous faites des livres seul ?
J'en ai un que j'ai fait toute seule parce qu'il n'y a pas de texte.
Oui, ça aide.
Je me sens pas à l'aise avec les mots.
On ne peut pas tout faire, hein.
Non, je trouve.
D'accord. Pour finir, un mot sur l'édition Cépage, maison d'édition.
Je ne peux pas trop vous en parler. C'est une petite maison d'édition, une toute petite maison d'édition qui n'est pas très vieille. Mais je ne peux pas vous spécialement parler d'eux. Je ne les connais pas plus que ça.
D'accord, mais très bien, ça arrive. Ok, merci. Il y a beaucoup d'autres stands présents, bien sûr, on ne va pas pouvoir aller voir tout le monde. Les gens commencent à arriver, on était là entre la pause de midi et deux pendant ce salon du livre. Et on vous invite, bien sûr, à penser au livre au pied du sapin. Un livre, ça fait toujours plaisir aux gens et c'est important pour les enfants comme pour les grands.
La position du bateau, le site est correct. Mouillage, l'embarcation s'est fait. Pavillon en marque de manœuvre restreinte, l'échelle est en place.
Dans ce cordon ombilical, de l'air, de l'électricité, le scaphandrier travaille au fond de l'eau, dirigé et surveillé depuis la surface.
En immersion.
Il faut donc répéter les gestes, encore et encore. Assimiler les procédures de décompression. Le but, créer des automatismes.
Plonger dans l'actualité de la Lozère.
Thank you.